On the Moon Again est un événement mondial et local à Arras, à l'occasion du premier pas sur la Lune il y a 50 ans. Vous retrouverez des ateliers, expositions, planétariums, concerts et des conférences à la salle Philippe Rapneau. C'est rue Saint-Clair à Arras. Il y aura aussi des observations à l'extérieur à partir de 19h. Et parmi les conférences organisées, vous retrouverez Olivier Boisard, qui est ingénieur en informatique et multimédia et passionné d'astronautique. Et vous donner une conférence sur le thème « Le village lunaire, un projet du 21e siècle ». C'est samedi à 18h30. Quelles sont les motivations d'installer une base lunaire ?
Retourner sur la Lune, et évidemment à terme installer une base lunaire, c'est un vieux rêve. Je veux dire, avec l'anniversaire qu'on fête actuellement d'Apollo, ça fait quand même 50 ans qu'on n'est pas revenu sur la Lune. Et effectivement, c'est un enjeu tout à fait passionnant. Alors, pour répondre à votre question, je dirais d'abord une application scientifique, de découvrir ce que c'est que notre satellite immédiat. Je dirais également une aventure humaine, explorer quand même notre voisine, c'est pas rien de retourner sur la Lune. Et puis, à terme, il peut avoir aussi un intérêt économique pour exploiter les ressources lunaires, l'énergie, les matériaux, etc.
Justement, les ressources lunaires, quelles sont les ressources qu'on peut y trouver ?
Alors, les ressources, vous notez quand même que dans ma réponse précédente, je n'ai pas mis en premier cet argument économique qui est certes important. Aujourd'hui, on raisonne beaucoup comme ça, c'est normal, parce que ça coûte très cher d'aller sur la Lune. Mais il faut aussi considérer. Alors, quel serait l'intérêt économique d'aller sur la Lune ? On a sur la Lune, en fait, une poussière qui s'appelle le régolithe. C'est une sorte de sable noir qui a été formé pendant des milliards d'années de bombardements de micrométéorites et de vents solaires. Et ce régolithe est plein de matériaux intéressants. Alors d'une part, pour construire des stations, construire des bases lunaires, faire du béton lunaire et puis développer notre habitat. Et puis également, peut-être avoir des matériaux qui peuvent être intéressants pour nous. Je pense à certaines terres rares ou certains matériaux assez rares qui seront peut-être de plus en plus rares sur Terre un jour. Pas aujourd'hui, mais peut-être un jour futur. Et puis, si on fait de la prospective, là, avec plus de recul dans le temps, peut-être qu'un jour, on arrivera à maîtriser la fusion nucléaire, ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui. Il y a un grand projet qui s'appelle ITER qui étudie tout ça actuellement. Et dans ce cas-là, le carburant, ce sera de l'hélium-3. Et cet hélium-3, on n'a pas beaucoup sur Terre, mais il y en a sur la Lune. Donc ça pourrait être, à terme, une ressource intéressante.
Comment on peut déterminer l'endroit idéal pour installer une base lunaire ?
Alors, c'est la question cruciale, qui sera sans doute traitée très différemment de ce qu'on avait fait pour Apollo. Apollo, on avait été sur des zones très visibles, au milieu de la Lune, mais on faisait des missions très courtes, qui duraient quelques jours. Par contre, si on reste durablement sur la Lune, la question qui se pose, c'est que la nuit est très longue sur la Lune. Elle va durer 15 jours. Le jour lunaire dure un mois. Donc, on a des zones qui vont être dans la nuit très, très longtemps. Donc, il peut être intéressant d'aller au pôle sud, notamment, ou au pôle nord. Mais le pôle sud est très étudié actuellement parce qu'il y a des zones qui sont constamment éclairées, ou pas loin d'être éclairées en permanence, ce qui permettrait d'avoir des ressources énergétiques continues, quoi.
Parce que c'est vrai qu'une fois arrivé sur place, il faut de l'eau, de l'oxygène, de la nourriture. Quels sont les moyens pour pouvoir vivre correctement sur la Lune ?
Alors, vous soulevez une autre question qui confirme l'intérêt d'aller sur les pôles. C'est qu'on a découvert assez récemment d'ailleurs, en particulier dans la profondeur de certains cratères, au pôle sud en particulier, mais également au pôle nord, des endroits qui ont de la glace d'eau. Donc, premier argument, si on va sur le pôle, on aura de l'eau qui est quand même un des éléments fondamentaux pour développer notre petit village lunaire. Et puis après, il faudra faire des serres, des endroits où on pourra faire un peu une économie circulaire. Il va y avoir un système autonome qui permettra à notre communauté de survivre en étant autant que possible autonome.
Alors, où en sont les projets d'architecture, de structure, et quels sont les matériaux pour pouvoir construire ce type de base ?
Les matériaux utilisés pour les structures de la base, ce sera très probablement un béton artificiel qu'on va créer sur place à partir de cette poussière que j'évoquais tout à l'heure qui est le regolithe. Et donc, on aura une sorte de béton qu'il faut qu'on développe et qui pourrait, par exemple, imprimer en 3D avec des grandes machines d'impression 3D et qui nous permettrait de faire, alors soit des igloos, hein, ça ressemblerait à des igloos, tout ça est encore à inventer, quoi.
J'étais avec Olivier Boisard, présent samedi à 18h30 pour une conférence sur le thème « Le village lunaire, un projet du 21e siècle ». C'est à la salle Philippe Rapneau, rue Saint-Clair à Arras, et c'est gratuit. Parmi les conférences proposées à On the Moon Again, Gatien Viret, historien spécialiste du 18e siècle, et vous êtes aussi président d'Arras Citadel, et vous donnerez une conférence sur la Lune au siècle des Lumières. Comment est né ce projet de faire cette conférence sur la Lune au siècle des Lumières?
Alors cette idée, je l'ai eue tout simplement en croisant Florent Delefly, donc dans le TGV Paris-Arras. Et donc il m'a parlé de son projet d'événement du premier pas sur la Lune. Et donc j'ai trouvé le projet vraiment très intéressant et j'ai souhaité participer à ma manière. Et donc en regardant rapidement sur Internet et notamment sur l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de données sur la Lune. Et bon, je me suis dit pourquoi pas m'aventurer dans une nouvelle aventure et préparer une petite conférence sur le sujet de la Lune au siècle des Lumières.
Alors avant de parler de la Lune, on peut resituer un petit peu quelle période se situe le siècle des Lumières?
Alors le siècle des Lumières, c'est globalement le 18e siècle. Si on devait apporter plus de précision, ce serait à la mort de Louis XIV, donc 1715, à dire jusqu'à la Révolution en 1789.
À cette époque-là, comment les scientifiques abordaient l'espace, le ciel?
Alors d'une manière très mathématique, puisque les astronomes se revendiquaient d'abord comme des mathématiciens. On connaît au final pas mal de choses sur la Lune. Des choses qui ne sont pas forcément très très précises. On ne sait pas encore calculer les distances entre la Terre et la Lune. C'est encore un peu compliqué à cette période parce qu'on n'a pas encore toute l'instrumentation nécessaire. Mais on essaie quand même de connaître beaucoup de choses, comme par exemple de quoi est composée la Lune. Ensuite, les distances entre les différentes planètes. Aussi, la hauteur des montagnes de la Lune, donc des cratères. Donc, c'est vraiment des données qui sont en construction à l'époque, mais qui ne sont pas encore tout à fait précises.
On observait déjà à cette époque-là avec des lunettes?
Oui, avec des télescopes notamment. Donc, on a une véritable course technologique. Avec surtout une recherche pour le XVIIIe siècle, et on le réussit plutôt bien, à être précis dans l'observation de la Lune. On n'est pas du tout dans le fait de pouvoir l'observer de plus en plus près, mais vraiment dans cette précision, pouvoir voir les plus de détails et pouvoir la cartographier.
On pouvait voir de près effectivement la Lune, mais on observait aussi d'autres planètes à cette époque.
Oui, tout à fait. Oh, oui. Jupiter est connu, le Soleil, d'ailleurs sur lesquels les recherches se basent vraiment au XVIIIe siècle. On cherche plutôt des données sur le Soleil que sur la Lune, mais beaucoup de planètes sont déjà connues.
Alors, il y a eu de nombreux astronomes aussi dans ce siècle des Lumières. Pouvez-vous en citer quelques-uns?
Oui, alors je pense notamment à Pierre-Simon de Laplace, qui est un astronome français, ou également William Herschel, qui lui est anglais et qui va mettre au point notamment un télescope avec 200 miroirs. Va réussir à faire quelques belles observations. Donc on a vraiment des parcours d'astronomes passionnants. On a aussi la famille Cassini qui, eux, sur 4 générations, vont être à la tête de l'Observatoire de Paris. Donc c'est vraiment une passion qui est typique du XVIIIe siècle.
Il y avait des échanges entre les scientifiques? Est-ce qu'il y avait une stimulation?
Ah oui, tout à fait. Au sein des observatoires, par exemple à l'Observatoire de Paris, on a une bibliothèque, ils se réunissent, ils peuvent aussi échanger, parfois se disputer sur les théories au sein de l'Académie des sciences.
Alors qu'est-ce que ça vous a apporté, ce travail autour de cette conférence par rapport à l'espace?
C'est le genre de sujet que je ne travaille pas habituellement, donc C'est une véritable découverte et une agréable surprise, comme souvent au siècle des Lumières, puisqu'on se rend compte de l'émulation qu'il peut y avoir autour de la connaissance et des progrès technologiques à cette époque. Et de voir qu'on a les mêmes soucis à l'époque des Lumières au niveau de la connaissance qu'on peut en avoir actuellement.
J'étais avec Gatien Viret, présent le samedi à 14h30 pour une conférence sur le thème « La Lune au siècle des Lumières ». C'est à la salle Philippe Rapneau. Je vous rappelle que On the Moon Again est un événement ouvert au public à la salle Philippe Rapneau, samedi et dimanche de 14h à 18h. Et samedi soir, il y a une observation du ciel de 19h à minuit. Tout est gratuit sauf le planétarium, ce sera 3€ à partir de 12 ans. Alors pour connaître le programme détaillé du week-end, vous allez sur le site internet et vous tapez On the Moon Again à Arras.